Brise ses belles heures. Ensemble, découvrons Diapason.
Conditions actuelles, 20 degrés.
Pas pire la musique sur CFLX 95.5 FM.
Bienvenue à l'heure Saint-Michel et c'est une des dernières apparitions de l'équipe numéro 2. Est-ce que c'est votre dernière ou votre avant-dernière?
Dernière, je pense.
C'est la dernière, hein?
Oui.
Ouais. D'ici septembre.
Ouais.
On va entendre plusieurs bonnes chroniques aujourd'hui, notamment celle de Louis-Philippe, celle de Marie-Noël, celle de Anya, mais on va débuter avec Charlotte qui a un invité très spécial. On écoute ça. Notre prochaine chronique sera celle de Charlotte. Charlotte, je pense que tu as un invité bien spécial à nous présenter.
Ben oui, bien moi aujourd'hui, j'aurai l'honneur d'être en présence de le chef d'antenne de Radio-Canada, Pierrette Pichette.
Bonjour.
Salut, ça va bien?
Ça va très bien, toi aussi.
Ben merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'entrevue avec moi.
Avec plaisir.
Fait qu'on va commencer. La première question, c'est quoi qui t'a donné le goût de devenir journaliste?
Mais moi, quand j'étais tout jeune, j'étais pas du genre à arrêter de parler facilement. J'étais le genre de personne qui aimait beaucoup partager ce que je ressentais, ce que je voyais. Puis aussi, ben, j'étais quelqu'un de curieux. J'avais toujours 1 million de questions. Ma mère raconte souvent la blague que dans les groupes familiaux, quand on était en train de faire une fête ou un souper, quoi que ce soit, des fois j'arrêtais tout le monde puis je disais là, ça sera mon tour de parler, s'il vous plaît, j'ai des choses à dire. Et j'ai jamais été la personne qui aimait être à la table des enfants. Je voulais être à la table des adultes dès mon plus jeune âge. Fait que je pense que cet amour de la communication là, cette passion là que j'avais pour parler, pour m'exprimer, s'est transposée avec les années dans une passion pour l'information. Puis là, étant donné que j'aimais m'informer et que j'aimais parler, j'ai eu envie disons d'informer les gens. Donc c'est ce qui m'a poussé à me diriger vers le métier de journaliste. J'ai hésité un peu, j'ai eu des phases où je voulais peut-être travailler en santé, j'ai eu des phases où je voulais m'en aller peut-être en théâtre aussi. Mais finalement le journalisme a été vraiment une vocation pour moi rapidement, et dès que je suis allé à Jonquière, qui est l'école où on enseigne le journalisme au Québec, au Cégep, ben je suis tombé en amour finalement avec le métier.
Ben, je pense que tu ressembles, parce que moi aussi j'aime ça beaucoup parler, et dans les familles, moi aussi j'aime ça m'asseoir avec les adultes, pas avec les plus jeunes.
Voilà, ben ça, souvent ça nous dirige vers des métiers de communication comme celui-là.
La prochaine question, c'est quoi les qualités requises pour devenir un bon journaliste?
Ben, je pense que d'abord, pour être journaliste, faut avoir une passion d'informer les gens. Je crois que des fois il y a des gens qui pourraient penser qu'il faut aimer parler et aimer être à l'avant-plan. C'est une des facettes, disons, du métier, mais je pense pas que ça doit être qu'est-ce qui te guide vers le journalisme. Je crois qu'il faut d'abord croire foncièrement en ce métier-là, puis en son bien fondé pour la société. Parce que les journalistes, sans eux, ben la société démocratique n'est pas saine. T'sais, on est là pour informer les gens, pour leur permettre de faire des choix libres et éclairés en société. Puis je crois que cette passion de permettre aux gens d'avoir l'information requise pour bien vivre en société, pour faire les bons choix, c'est pas mal ce que ça prend de plus, je dirais. C'est vraiment la priorité. Par la suite, il faut évidemment être capable d'être curieux. Faut pas hésiter à poser des questions. Faut savoir quelles questions poser aussi aux gens pour aller au fond des choses. Faut pas se satisfaire d'une réponse, disons, incomplète ou de la surface. Faut aimer aller plus en profondeur avec les gens pour donner des portraits complets de différentes situations qu'on va aller couvrir.
Ouais, intéressant. Ça fait combien de temps que tu fais ce travail-là?
Ben moi, en fait, j'ai commencé à étudier là-dedans en 2017, et c'est pendant mes études que j'ai commencé à travailler en journalisme à l'été, entre ma deuxième et ma troisième année en ATM, en arts et technologies des médias à Jonquière. C'est là que j'ai commencé au Nouvelliste à la base, qui est ici à Sherbrooke. Ben, c'est la Tribune, mais c'est la même chose, mais à Trois-Rivières, le Nouvelliste. C'est le quotidien, disons, régional de Trois-Rivières. Moi, je suis un gars de la Mauricie, je suis originaire de là-bas. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé au Nouvelliste durant l'été, entre ma deuxième et ma troisième année d'études. J'ai refait l'expérience entre ma troisième année et mon entrée à l'université. Et c'est une fois ici à l'Université de Sherbrooke que j'ai fait le saut à Radio-Canada, où je suis depuis maintenant 5 ans, un peu plus de 5 ans.
Ça ressemble à quoi, à une journée typique d'un journaliste? Ça ressemble à quoi?
Ouais, ben en fait, actuellement, à Radio-Canada, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on arrive tous aux alentours de, disons, 9h30, 10h. Entre 9h et 10h, on entre au boulot. Puis là, ben, on se questionne sur quels seront nos sujets de la journée. Fait qu'on se demande un peu de quoi les gens parlent dans la rue. C'est quoi qui préoccupe en ce moment les gens? On a une expression assez populaire. De quoi on parle chez Louis aujourd'hui? On se dit souvent ça. Chez Louis Lanchonette, c'est quoi le sujet de conversation? Ça nous permet souvent de se rapprocher de ce que les gens veulent savoir dans la journée. Un exemple, c'est que en ce moment, on est en série avec le Canadien de Montréal. Ben, on va se demander c'est quoi, de quoi on parle chez Louis? Ben, souvent, les jours de match, chez Louis, on parle de la game qui s'en vient. Donc, c'est un peu pour ça qu'on va décider, OK, on va mettre un de nos journalistes sur le terrain, aller voir dans nos écoles s'il y a des rassemblements pour le Canadien. Est-ce que dans nos magasins de sport, ils ont des ventes qui explosent de chandails du Canadien. Fait que c'est un peu ce qu'on va faire en arrivant au boulot. Et par la suite, ben, les journalistes partent sur le terrain, okay, font ce qu'on appelle la cueillette, donc ils vont aller faire différentes entrevues avec les gens concernant leur sujet, vont ensuite revenir à la station avec leur matériel, et moi, comme chef d'antenne, ben je suis là avec eux comme point de chute, si on veut, lorsqu'ils ont réussi à compléter leurs entrevues, viennent me voir, on regarde avec eux si, justement, on peut améliorer le contenu qu'ils ont à nous proposer pour le bulletin du soir. Et, ben évidemment, à Radio-Canada, on est multiplateforme, donc on a notre site web, notre application à remplir durant la journée, donc les journalistes vont travailler à remplir ces plateformes-là, à faire de la radio aussi, parce qu'on a une émission du matin, une émission d'après-midi. Alors, c'est un peu la poutine du jour pour les journalistes. Puis moi, ben évidemment, à 18h, j'ai comme le bonbon. Oui. Tout le matériel est prêt, puis on peut faire le bulletin de nouvelles à la télé.
Intéressant. Si tu serais pas devenu journaliste, tu aurais voulu faire quoi? T'en as un peu parlé tantôt, mais qu'est-ce que t'aurais voulu faire?
Oui, ben j'avais le théâtre qui m'a toujours parlé un peu. J'ai fait du théâtre vraiment tout au long de mon secondaire. Puis j'avais beaucoup ça en tête. Également, en sortant de Jonquière, du cégep, j'ai été admis en droit à l'Université de Sherbrooke. Alors, j'avais quand même la possibilité peut-être de devenir juriste. C'était quelque part dans ma tête. Ce qui est arrivé finalement, c'est que je suis rentré à Radio-Canada en même temps, puis je suis tombé en amour avec Radio-Can, avec le métier, avec ce que je faisais. Donc, c'est là que j'ai réorienté un peu mon parcours universitaire, puis j'ai décidé de ne pas devenir avocat ou notaire, par exemple. Mais ce sont des métiers qui me parlaient quand même aussi, là.
Ouais, intéressant. C'est quoi tes passe-temps quand t'es pas en onde? Si mettons t'es pas en onde, qu'est-ce que t'aimes faire?
Mais moi, je suis un sportif. Hein. Je pense que ça trahit. J'ai déjà parlé du Canadien deux fois depuis le début de l'entrevue. Je suis un peu cette personne-là. Fait que je vais aller voir beaucoup de sports. Je vais pratiquer aussi certains sports. Je joue au baseball, par exemple. Je vais jouer au tennis l'été. L'hiver, j'essaie d'aller sur les patinoires extérieures. J'aime beaucoup, beaucoup bouger. Fait que je dirais que mon principal passe-temps, c'est de faire tous les sports que j'aime avec les gens que j'aime. Et je suis quelqu'un, mes amis aiment dire que j'ai pas la facilité, disons, d'être tout seul. J'aime beaucoup être avec des gens. Fait que lorsque je suis pas au boulot, ben j'essaie de contacter des amis, on se voit souvent. Je suis très, très rarement seul dans la vie. Fait que j'essaie de rassembler des gens souvent pour faire justement certains sports. On va se voir à la maison pour écouter des matchs, par exemple, comme ce soir, je vous laisse deviner qu'il y a match de hockey.
Oui,
je vais pouvoir l'écouter. Alors, c'est un peu ces activités-là que j'aime faire lorsque je sors du lieu de travail, disons.
Oh, ben ça ressemble. Moi aussi, j'aime ça être avec le monde. J'aime pas ça être tout seul. Ben, pouvez-vous me dire une qualité sur vous, sur toi?
Ben, en fait, je dirais dans les qualités qu'on pourrait m'attribuer, disons, c'est un exercice qui est particulier quand même de cibler des qualités sur soi-même, mais je crois que je suis quelqu'un qui est quand même à l'écoute. J'aime écouter les gens qui veulent me parler de leurs ressentis selon différentes émotions, selon ce qu'ils ont vécu, selon ce qu'on a vécu des fois. Fait que beaucoup dans la communication, mais dans les deux sens, tu sais, j'ai l'impression que je pourrais être considéré comme une bonne oreille, disons, par mes amis qui ont parfois envie de parler ou envie de se confier.
Parmi toutes les entrevues que tu as faites, est-ce qu'il y en a qui t'ont plus touché que les autres?
Il y en a certaines qui nous marquent quand même. Je dois dire que moi, j'aime beaucoup le sport. Puis, à un moment donné, je suis allé à la rencontre d'un patineur de vitesse canadien qui s'appelle Félix Roussel, qui vient de Sherbrooke.
Oui, c'est vrai.
Ouais, puis, Félix et moi, on a pu avoir un entretien sur sa venue dans l'équipe nationale de patinage de vitesse. Puis, lui a vécu beaucoup d'adversité avant de pouvoir intégrer l'équipe nationale, l'équipe canadienne. Il y a un moment où il pouvait même pas porter le skin de l'équipe. Le skin, c'est la combinaison des patineurs. Il pouvait même pas porter la combinaison d'équipe Canada tellement il avait eu difficile, il avait pas pu se qualifier. Puis là, ben, il s'est quand même donné, il était résilient, il est allé pour pratiquer avec Kim Boutin, entre autres, l'autre Sherbrookeoise, et c'est lui qui devait la challenger. Et là, les coachs se sont rendus compte que ses temps étaient bons, qu'il avait quelque chose à faire avec lui, qui était peut-être justement un bon candidat pour l'équipe nationale masculine. Et finalement, il a intégré l'équipe nationale. Il a réussi à accomplir finalement son rêve. Et il vient tout juste de compléter ses premiers Jeux olympiques, Félix Roussel. Fait que c'est ce genre d'entretien à la base des choses où il commençait à peine, il voulait rejoindre l'équipe nationale. Et là, ben après, on a pu refaire un reportage ensemble à propos de ses premiers Jeux olympiques qui étaient son rêve ultime. Il y a toujours quelque chose de particulier. Puis on tisse des amitiés aussi, tu sais, aujourd'hui avec Félix Roussel, lorsque je le vois sur la scène internationale, ben, je sais qu'on a une relation qui est peut-être plus que simplement journaliste et invité. Fait que je dirais que cette entrevue-là m'a beaucoup touché parce que c'était un bel entretien, puis c'est beaucoup ouvert. Puis par la suite, ben, ça a né une belle collaboration là, pour le futur.
Est-ce que As-tu déjà fait une entrevue avec une grande vedette ou avez-vous déjà fait des entrevues comme ça?
Ben, là, on dirait que je suis venu ici parler de sport, mais à un moment donné, on m'avait demandé d'aller couvrir un tournoi de golf, puis il y avait Benjamin Saint-Just, qui est un joueur de football de la NFL, de la Ligue nationale de football. Ça a été un peu... tu sais, des fois, on fait des entrevues, puis on est un petit peu frappé parce qu'on est fan avant d'être journaliste. Là. Moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment partisan de ces gens-là. Donc là, c'est sûr de voir Benjamin Saint-Just. Il y avait Alexandre Carrier aussi qui était à cet événement-là. J'ai pu faire une entrevue avec lui, super gentil. Donc, mais c'est quand même particulier quand on se dit « Ok, je suis en train de rencontrer quelqu'un que il y a pas si longtemps, j'étais plus amateur de cette personne-là, vraiment admiratif de ses réalisations. » Donc oui, c'est assez particulier des fois quand on dans le cadre de notre métier, mais évidemment, il y a toujours la donnée où on doit quand même être professionnel. Puis on a un métier qui nous amène à rencontrer ces gens-là, fait qu'il faut quand même faire la part des choses, puis eux, ben, nous accordent aussi un grand respect, fait qu'il y a cet échange-là qui est assez d'égal à égal à un moment donné, puis on apprend, disons, à rencontrer ces gens-là, puis à quand même être professionnel, puis à faire le métier qu'on nous demande de faire.
Est-ce que tu encouragerais les jeunes à faire cette carrière-là, s'il y en a qui aimeraient ça?
Ben, je crois que c'est un métier qui est tout à fait noble et qui va toujours exister dans la société. Si on veut rester une démocratie saine, ça va prendre des journalistes. Fait que si une personne croit en ce métier-là, a cette vocation-là, oui, absolument, j'encouragerais quelqu'un à le faire. Ceci dit, faut pas s'attendre à faire du 8 à 5, avoir son heure de dîner, puis à partir à midi le vendredi. Quand t'es journaliste, c'est un peu, tu fais ce métier-là parce que t'aimes pas les horaires typiques, t'aimes pas arrêter de travailler. C'est dur à dire, mais c'est quand même le cas. T'sais, quand on voit un sujet, moi j'avais une enseignante à Jonquière qui nous avait dit qu'au restaurant, la conversation de la table à côté est encore plus importante que ta conversation quand t'es journaliste, parce que c'est là que se trouvent les sujets. Fait qu'on n'arrête jamais vraiment. Si un jeune venait me voir en me disant « Moi, j'arrête jamais de travailler, j'ai un bureau de travail, j'ai une passion pour l'information, j'ai envie de contribuer à ma société démocratique », mais je dirais « Va vers le journalisme, t'as exactement ce qu'il faut. »
Prochaine question. Est-ce que t'es fier de ce que tu as accompli jusqu'à maintenant?
Absolument. C'est vraiment... Puis je crois que ce qui me rend le plus fier, c'est de le faire avec une équipe qui est aussi tissée, serrée, puis de travailler avec des gens qui sont plus que des collègues. En ce moment, au boulot, là, j'ai plein d'amis. C'est quand même particulier de se dire ça. Puis ce qui me rend le plus fier, c'est que j'ai pas encore vécu la journée où je me suis levé le matin. J'ai pas eu envie d'aller au boulot. Puis je me suis pas dit que j'étais chanceux de faire ça dans la vie. Fait que c'est sûr que de réussir à trouver un travail qui ne donne pas l'impression qu'on va travailler le matin, c'est quelque chose que peu, je crois, peuvent dire qu'ils ont réussi à faire. Moi, j'ai réussi à le faire. J'ai 26 ans. C'est sûr que ça me rend fier, là.
On est déjà rendu à la dernière question de l'entrevue. Aimerais-tu ça un jour devenir journaliste correspondant dans un autre pays?
Moi, je suis quand même quelqu'un qui est très familial, qui aime être proche de mon monde.
Okay.
Je crois que je l'aurais peut-être un peu difficile si je partais dans un autre pays. Ceci dit, pour peu de temps, possiblement, c'est certain. T'sais, si on me dit hey, « tu pourrais aller faire 2 semaines à tel endroit pour faire des reportages à l'international », 100%. C'est sûr que je signe ou je signe mon nom, je veux y aller, je veux partir. Par contre, les correspondants, on en a à Radio-Canada, ils vivent, c'est pas si facile que ça, disons, d'être loin longtemps. Pour moi, ça serait difficile. Il y en a qui, dans leur fort intérieur, ils sont nés pour ça, ils sont des globe-trotteurs, si on veut, ils aiment ça. C'est des électrons libres, finalement. Ils veulent aller ailleurs, ils veulent vivre dans d'autres pays, être justement dépaysés, découvrir d'autres cultures. Ils ont peut-être moins d'attaches ici, ça leur convient d'être loin de leur endroit, finalement, de leur chez eux. Tandis que moi, ben, peut-être que j'aimerais ça quand même garder une attache là d'où je viens. T'sais, fait que je pense que c'est ce qui ferait la différence entre moi, puis peut-être un Louis Blouin qui en ce moment est à Washington, ou encore une Marie-Ève Bédard qui a été au Moyen-Orient au cours des derniers mois couvrir ce qui se passait là-bas. Ceci dit, le travail de ces gens-là m'impressionne grandement. Je suis que d'admiration devant ce qu'ils font. C'est juste que peut-être que moi, j'aurais besoin d'être un peu plus chez moi.
Je pense que j'ai un de mes collègues qui aimerait ça vous poser une question.
Oui, sans problème.
Quel a été le processus pour devenir chef d'antenne?
Pour devenir chef d'antenne, je crois qu'il faut avoir fait beaucoup de terrain. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme le point de chute. On va coordonner les équipes qui sont sur le terrain. Puis la meilleure façon d'être la bonne ressource pour la personne qui est sur le terrain, c'est d'y avoir été. Moi, je l'ai pas été beaucoup d'années, mais j'ai eu la chance de faire différentes couvertures, d'être devant différents problèmes. Parce que quand tu as vécu le problème, si ensuite t'as un jeune collègue qui le vit puis il veut un conseil, ben tu vas pouvoir être de bons conseils pour lui, tu vas pouvoir le guider, être un peu ses lumières quand lui est sur le terrain. Fait que je crois que c'est un peu ce qui va rendre un chef d'antenne prêt à faire ce boulot-là. Donc il y a cet aspect-là, évidemment. Ça prend un certain leadership aussi. Puis bon, évidemment, ça prend des opportunités. T'sais, des fois, il y a des mouvements qui se font. Avant moi, c'est Marie-Ève Lacca qui était la fin de semaine au téléjournal Estrie. Puis avant, la semaine, pendant ce temps-là, c'était Chantal Rivet. Chantal a eu une superbe opportunité à Montréal. Est allée à Montréal, bien évidemment, le train a passé. Et là, j'étais là. J'avais ça en moi de vouloir faire ça. Puis les patrons à Radio-Canada m'ont accordé leur vote de confiance. C'est pourquoi je suis très reconnaissant, évidemment. Donc, j'ai un peu embarqué dans le train lorsqu'il est passé. Il y a une donnée qui est un peu de la chance, évidemment, dans tout ça. Mais je crois que j'avais fait ce qu'il fallait pour être prêt à avoir dans mon coffre, les différents outils qui me permettent après d'être un peu un coordonnateur des équipes qui sont sur le terrain là au courant de la journée. Puis, évidemment, une donnée où on aime animer, évidemment. Hein. J'ai le 30 minutes de bulletin à tous les jours à 6h, de 6h à 6h30. Fait que c'est certain qu'on aime ça, cet aspect-là. Si j'aimais pas animer, je pourrais pas faire chef d'antenne, c'est certain.
Ben merci beaucoup.
Avec plaisir.
C'est très agréable. Charlotte, est-ce qu'on fait choisir la prochaine pièce à ton invité?
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que tu aimerais entendre?
Eh bien, moi, je dois dire que j'en ai beaucoup parlé pendant l'entrevue. J'aimerais beaucoup entendre le but de Loco Locas en cette période de séries éliminatoires du Canadien, en ce bal printanier. Je crois que le plus souvent on entend le but de Loco Locas, le plus de chances le Canadien aura de se rendre jusqu'au bout.
Ben, Pierrick, on est diffusé le dimanche soir. Je sais que dimanche, on va avoir une partie. On espère que, parce que là, on est vendredi après-midi, on préenregistre et on espère que ce soir, ce sera une victoire du Canadien et qu'on puisse entendre justement au Centre Bell la pièce que tu as choisie.
Merci beaucoup.
Ben, merci, Pierre, d'avoir accepté de venir faire l'entrevue avec moi.
Ça a été un plaisir. Merci beaucoup.
Merci.
Loco Locas, the group you had, that French group you had on.
Terrific.
I think Pat Hickey had in the paper, the Gazette, all about it, how I really like them, and I love their message, and I want to wish you the best of luck in all your endeavors, right?
Good stuff.
Okay, good.
We have a new goal, LeBouf. All right.
C'est au Québec, il fait pas froid, il fait frais, c'est de même, parce que c'est de même. Pis c'est bien correct, on a de la place en masse. Pis nous face à face, on les fait sur la glace. Alors on lasse nos pattes, pis nos gars, c'est comme Maurice. On glisse dans l'arène avec la haine de la défaite et le feu dans les yeux. En fait, quand on veut, on peut gagner.
En des temps si lointains que les Franco s'appelaient Canadiens, à une époque où l'époque était faite de crottins, on a réuni des hommes dont le destin commun est comme un film sans fin.
En technicolore et tricolore, bleu comme le Saint-Laurent, blanc comme l'hiver, rouge comme le sang qui nous coule à travers.
Le corps de l'équipe, c'est le cœur de la nation, et chaque année faut clore avec une célébration.
Ils diront jamais tel quel aux nouvelles, mais le tissu social de Montréal, c'est de la Sainte-Flanelle. Quand il est question de hockey, nous on fait pas dans la dentelle, ok? C'est plus qu'un sport,
c'est une métaphore de notre sort.
C'est ça qui nous ressemble, c'est ça qui nous rassemble. Anglo, franco, peu importe la couleur de peau. Si tu détestes Toronto, le sang qui bouge dans le désert paraît aussi rouge. Mon frère, que les chandails de nos vainqueurs, de vainqueurs qui luttent avec quoi dans les Canadiens pour une fois rallier tous les Québécois. Vainqueurs, de vainqueurs, le pire et le meilleur, les Canadiens de Montréal, notre équipe nationale. Un plan de match qu'on respecte à la lettre, un gardien alerte,
des bonnes mises en échec,
des passes drettes sur la palette, puis des lancers précis et secs. C'est comme ça qu'on va gagner nos épaulettes. Mais
quand ça va mal, quand au calme on débile, que je vois pas un sale quitter le pont du navire. C'est pas un matin qu'on accroche nos patins.
Franchement,
franchement, ça franchit sans plancher.
Allez-y les habitants, quand vous la mettez dedans,
y'a un petit peu de nous autres là-dedans.
On est debout avec vous, on ira jusqu'au bout durant la saison. C'est toute la nation qui vibre au même diapason.
Comme quand les gens criaient qui, c'était en dépit du combat constant de la vie.
Ça leur donnait des forces,
ils pouvaient pomper le torse.
Voilà la mort, c'est un aliment
réussi. On peut gagner, on peut plus que participer. Nous on peut gagner, à soir on fonce sur la patinoire. Pour gagner, si on se défonce pour la victoire. On peut gagner, on peut gagner.
Enfin on fait les séries, fini les folies. Le Sébastien et Rififi, Boston, Philadelphie. Avec les fantômes du forum, on n'a pas peur de personne. Chaque homme donne le maximum pour que cette année soit la bonne.
On prend dans la fièvre, est universelle. Puis il y a juste une place où la classe, il faut pas qu'elle dégèle. Ici le sens c'est de la sève qui monte jusqu'à nos lèvres. Le cri s'échange en un chant de ralliement qui s'élève.
Nos chevaliers sont en cavale pour ramener le Graal. Montréal, le tournoi est un chemin de croix. Parsemé des bois, mais la coupe on y croit comme autrefois. On a la foi, puis si c'est pas cette année, mais comme dirait René, à la prochaine fois.
On peut gagner, on peut plus que participer. Nous on peut gagner, à soir on fonce sur la patinoire. Pour gagner, si on se défonce dans la victoire. On peut gagner, on peut gagner.
Liquida,
qu'est-ce qu'un shot,
l'arrêt de moi,
still I want to see you.
Il est 19h.
29 minutes.
Imagine une émission dans laquelle tu pourras ressentir toute une gamme d'émotions. Au menu, musique classique, instrumentale, populaire et même du hard rock, du punk et du metal.
Viens avec nous pour un fantastique voyage dans les divers styles et le temps. Tous les dimanches de 20h à 22h, en écoutant Décibel Chansons, attends-toi à beaucoup de surprises et trouvailles musicales. Tes animateurs, Jean-Guy Bolduc
et David Lacharité,
n'attendent que toi.
Entrez dans l'univers MaTV en participant à votre télévision communautaire. Vous pouvez proposer un projet d'émission reflétant les intérêts de votre région ou devenir bénévole devant et derrière la caméra. Si l'animation, la recherche et les tournages télévisuels vous intéressent, écrivez-nous à infomatv@commercialvideotron.com et visitez le matv.ca.
CFLX, en Estrie, c'est une radio pas pire pantoute.
CFLX, 95.5 FM.
C'est maintenant au tour de Ania de nous faire sa chronique. Ania, tu nous parles de quoi aujourd'hui?
Je vais vous parler des chansons qu'on massacre en chantant.
Vas-y.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des chansons qu'on massacre en chantant. Et quand je dis massacrer, je parle pas juste d'un petit oubli de parole. Je parle de chanter une chanson en ayant la conviction ferme de chanter les bonnes paroles. Parce qu'on a tous... On a tous ces bons, ces moments-là où que tu es complètement absorbé par la chanson. Tu connais le début, tu vibres, tu es prêt pour la performance de ta vie. Puis arrive le passage dangereux, une parole mal comprise, un couplet trop rapide. Et là, ton cerveau bug, il panique, il ne s'arrête pas, il invente. Et c'est là qu'on devient artiste d'un freestyle involontaire. Et le pire... c'est qu'on garde une expression sérieuse en chantant ça comme si c'était exactement les vraies paroles. Ce qui est fascinant avec ce phénomène, c'est qu'il n'épargne personne, peu importe si tu écoutes beaucoup de musique, si tu es attentif, si tu connais par cœur, il y a toujours une chanson et souvent c'est celle que tu as chantée pendant des années parce que oui, il y a des gens qui découvrent à 17, 20 ans ou même 30 ans, que les paroles qu'ils chantaient depuis leur enfance étaient complètement inventées.
Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé?
Oui.
Avec quelle pièce, mettons, là?
Ben, je dirais la chanson Unforgiven.
De Metallica?
Ouais.
Ah, écoute, j'avais une cousine qui, elle, au lieu de chanter Alone, The Heart, elle chantait London. Et c'était très drôle, là. L'art de massacrer une chanson, ça l'était. Mais ça arrive un peu à tout le monde, et c'est toujours très, très, très loufoque, très amusant.
Mais tu sais aussi, qu'est-ce qui est difficile avec les chansons en anglais, c'est que, tu sais, genre, tu comprends une parole, mais dans le fond, c'est pas exactement... Tu sais, genre, mettons, t'entends quelque chose, mais c'est pas exactement...
Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, je me rappelle très bien de la chanson Can't Live de Can't Live Without You, quelque chose du genre de Mariah Carey, de la personne, je crois, qui venait des Philippines et qui chantait Ken Lee au lieu, là, c'était très drôle. Là. Souvent t'entends, mais c'est pas la même chose du tout. Mm. Eh bien, merci Ania. On écoute quoi?
On va y aller avec Unforgiven de Metallica.
Sur les ondes du 95.5, CFLX à l'heure Saint-Michel.
Mmh.
De retour à l'heure Saint-Michel après cette pièce de Metallica, The Unforgiven, un choix de Anya. Et c'est maintenant, Louis-Philippe, tu nous parles de quoi?
D'un petit sujet que j'ai improvisé. Et on parle des signatures d'entraîneurs du CF Montréal et de l'Impact.
Et
qui est décevant. Premièrement, depuis leur entrée en MLS en 2012, le CF Montréal change plus souvent de coach. Alors, d'abord, il y a eu J.C. March, qui était là entre 2011 et 2012. Et ensuite, il y a eu Marco Chalibon, qui a occupé le poste pendant un an. Lui, qui était réputé pour être un entraîneur très très agressif.
John Tortorella.
Ouais, mais puis il se faisait plus suspendre que coacher. Ensuite, Frank Lopez, que lui il avait de l'expérience de la MLS. Il a été là de 2014 à 2015. Par la suite, il y a eu Mauro Biello, qui était quand même là un certain temps, de 2015 à 2017. Ensuite, un de mes préférés, ça a été Rémi Garde.
C'est très drôle quand tu dis un certain temps, puis il était là 2 ans, mais t'as
raison. Ouais, ben pour eux autres, c'est énorme. Ouais. Fait que Rémi Garde, c'est un que j'ai apprécié beaucoup, mais c'est parce qu'il y avait la culture de France, mais pour les fans de plus de soccer, pour les plus les connaisseurs, ils disent qu'ils ne savaient pas ajuster à la MLS. Ensuite, on a eu Cabrera, qui était là juste par intérim. Après ça, on a eu un petit moment Thierry Henry, mais on ne l'a pas eu longtemps. Car c'était pendant la saison pandémique 2020.
Puis si tu me permets, il est allé coacher cette année du côté de l'Europe, puis ça n'a pas fonctionné du tout.
Fait que je pense pas qu'il est bon pour être coach. Ensuite, on a eu Wilfred Nancy, qu'il n'aurait jamais dû laisser partir entre 2021 et 2022. Après ça, on a eu Laurent Courtois, Donadel dernièrement, et maintenant Philippe, je me rappelle pas comment le prononcer.
Ouais,
c'est ça. Puis c'est drôle parce que là, dans mes notes, Marco Donadel, il s'est fait congédier en avril 2016. Puis il s'est fait embaucher en 2025. Fait, c'est quasiment un an, jour pour jour, après sa nomination.
Incroyable.
Ouais.
C'est pas nécessairement. Les défaites, c'est pas nécessairement une question de coaching. C'est une question de joueur, je pense.
Moi, je compare souvent, quand je parle avec mes amis puis mon entourage. Le CF Montréal, on commençait un peu comme le Phoenix, notre équipe ici à Sherbrooke, comme un club d'expansion. Puis, on n'a pas énormément eu de coach. On a eu 3 coachs en 14 ans d'existence.
Stéphane Julien, Jules Vallée,
puis Gilles Bouchard. Fait que c'est quand même de la stabilité. Ouais. Puis, si tu veux avoir un bon club, il faut que tu aies une culture. Là. Puis, le CF Montréal, c'est plus ridicule qu'autre chose.
C'est ce que Montréal ont fait avec Martin Saint-Louis. Ils ont été patients, puis ils étaient en train de
monter. Puis là, on a un bon club présent.
C'est ça. Eh bien, merci, Louis-Philippe.
Ça fait plaisir. J'ai pas vraiment d'idée qu'on peut penser pendant la pause.
Pendant la pause, on regarde ça en vous rappelant que vous êtes à l'écoute de l'heure Saint-Michel en compagnie des étudiants du Centre Saint-Michel.
Petit cul de chez nous, je regardais les grands. Jouer au hockey dans cours d'école, drette en avant. Mes yeux brillaient comme la glace au soleil. Je me disais qu'un jour, ben j'aurais mon tour. Au réveil à Noël, le plus beau matin de ma vie, il y avait sous le sapin un titan Wayne Gretzky. Dans mes plus grands rêves, j'aurais jamais imaginé avoir à moi un si beau bâton d'hockey. Sérieux, j'étais la merveille, puis lui, Mario le mieux. Le duo toute étoile était prêt à se mesurer aux autres vedettes qu'on trouvait dans le quartier. Chaque soir après le souper, on s'amassait une coupe de gars pour jouer les premiers matchs d'un grand championnat. Même s'il faisait noir, c'était pas important. Pas question de s'en aller sans connaître le gagnant.
équipe se formait à l'aréna d'à côté. Mon chum Paradis, mon cousin Pigogne ont couru pour aller donner leur nom les premiers. J'ai jamais vécu une telle déception. Au moment où mon père m'a refusé l'inscription, il disait que le hockey c'est ben trop violent, pis de me choisir un sport moins dur. C'est un cœur de parent. Je regarde une partie sur écran géant. Je me demande ce qui est devenu mon rêve d'enfant. Ils ont probablement fait un piquet avec mon vieux titan. Je l'avais cassé parce que j'étais mauvais perdant. Je patine sa bottine encore aujourd'hui, je l'avoue. Je suis meilleur pour chanter avec la guitare au bout. Le sourire en coin, je me dis que les choses ont bien viré. Mais j'ai un seul regret. J'ai jamais joué au hockey.
De retour à l'heure Saint-Michel, et notre dernière chronique aujourd'hui, ben, ce sera celle de Marie-Noël. Tu nous parles de quoi?
Je vais vous parler du film Le diable s'habille en Prada,
ah, ouais.
Numéro 2. Je suis allé le voir la semaine dernière à la maison du cinéma, et puis j'ai pris aussi ben, la salle Nova avec ouais. les sièges ultra confortables. Pour 3$ de plus, ça vaut le coup.
Puis, est-ce que c'est les mêmes acteurs? Parce que ça fait quand
oui,
même une
oui, ben d'années. C'est ça, c'est tous les mêmes acteurs.
Ça fait plus que 10 ans, là.
20 ans.
20 ans, c'est ça.
Ouais. C'est une satire du milieu de la mode. Le film épingle les travers du luxe, superficialité, culte de la maisseur et violence des échanges professionnels. La tyrannie managériale explore la pression des patrons exigeants et le sacrifice des personnels pour réussir sa carrière. C'est apparence versus substance. C'est vraiment comme
du flashing.
Ouais, c'est ça, ouais. Une réflexion sur l'image, les vêtements. Tu sais, admettons, on a juste à penser à au gala Metz qu'il y a eu le 4 mai, c'est les mêmes, à peu près les mêmes vêtements, des vêtements que personne ne pourrait porter vraiment. Là. C'est ça. C'est un rythme qui est très fou. Le montage est rapide, servi de dialogue cinglant. Il y a beaucoup de musique. C'est visuellement réussi, mentionné aussi. L'hommage au glamour de New York et de la mode, les costumes mémorables et la garde-robe est un personnage à part entière. Le diable s'habille en Prada est une comédie féroce qui réussit à peindre un monde professionnel toxique avec beaucoup de style et d'humeur et d'humour porté par une Meryl Streep iconique. Le film offre un divertissement de grande qualité qui s'interroge sur le prix de la réussite. Puis j'irais, là ça va être la deuxième fin de semaine, puis mm-hmm. j'irais, la première fin de semaine, il a carrément fait comme 227 millions en entrée.
C'était attendu.
Ouais, c'est un film qui est agréable à regarder. Ben, même, c'est drôle, je le trouve meilleur que le premier.
C'était déjà bon, le premier.
Oui, c'est ça. Mais, je sais pas, c'est vraiment comme, ah ouais, tu es comme ça, puis, ah, ben pourquoi tu fais ça? C'est ça, c'est... si vous avez envie de le voir, ben, il est au cinéma, puis ben, il va être bientôt, je suis probablement sur Crave ou sur... Hélico, bientôt.
Sur une plateforme quelconque, c'est sûr. Sûr.
Mm-hmm. Puis, ben, disons, j'irais juste un petit affaire. Lady Gaga a fait un petit rôle, a fait un petit rôle là-dedans, disons.
Tant qu'elle ne met pas sa robe en steak.
Non.
Ben, merci, Marie-Noël. On écoute quoi?
Ben là, ça va être de soi, ça va être Vogue de Madonna.
Sur les ondes du 95.5, c'est Félix.
What are you looking at?
Thank you.
c'est déjà notre dernière intervention pour l'émission d'aujourd'hui en compagnie de l'équipe numéro 2. Finalement, c'est même leur dernière intervention pour l'année 2025-2026. Donc, ben merci à Nia, merci Charlotte, Marie-Noël et Louis-Philippe. Et quoi d'autre à vous dire que je vous souhaite très bon été. Merci à notre invité Pierre-Éric Pichotte d'être venu nous rencontrer également. Bye!
Il est 19h.
58 minutes.
C'est Félix présente en projection l'album Allo Chanceux de Mononc Jason. Enregistré sur cassette et born reel to reel dans l'ancien studio Memring Cook Recording Company, cet auteur-compositeur acadien nous offre son nouvel album qui navigue entre les influences 60-70 et les traditions acadiennes.
Il y a des hot dogs pis des wieners après fricasser sur le barbecue. Hop-toi une assiette, mange pis fais comme je veux.
Ses expressions d'humour et son art de raconter nous offrent une perspective contemporaine de la mémoire collective acadienne où se croisent vie rurale et vie locale, le tout teinté d'ironie. Pour une belle découverte tout en humour, écoutez Allô chanceux de Mononc Jason.
Oui, qu'il y avait dedans, puis je sentais les boîtes à terre. Ouais, je crois
ça. Si tu aimes la musique, la chanson, les mélodies, la composition, le zeste musical, c'est pour toi. Tous les jours de la semaine, de 10h à midi, des sélections originales, des sélections en reprise, en remix ou rapiécé. L'exercice sollicité auprès des auditeurs et auditrices de C'est Félix permet d'apprécier les goûts diversifiés des gens qui font la différence chez nous. Une production de Sylvie L. Bergeron et de Patrice Desmarais pour